si tu le veux bien, nous nous connaissons, nous allons nous tutoyer.
Oui, je pense que ça sera plus
voilà. simple. Voilà, nous n'allons pas faire semblant de ne pas nous connaître, mais c'est pas pour ça que nous vous excluons de cette conversation que nous allons mener, conversation dans laquelle vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez une question. Moi j'en ai une question, Claudine. La première, c'est, tu as créé déjà ce centre de l'imaginaire arthurien dans cette merveilleuse et mythique forêt de Brocéliande en Bretagne, cette forêt de Pimpon. Et d'où t'est venue cette idée? Pourquoi et comment as-tu créé ce centre de l'imaginaire arthurien?
Alors, il y avait un livre qui avait marché très fort il y a une trentaine d'années qui s'appelait « Le hasard et la nécessité ». Je ne vais pas reprendre ce titre, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que nous étions un groupe d'assez passionnés de culture celtique, de culture bretonne, mais une culture bretonne ouverte, de tout ce qui avait trait aux mythologies, à l'histoire, à l'art du nord-ouest de l'Europe. Nous avions une revue déjà qui s'appelait Artus, donc Artus était le nom du roi Arthur, la version romane du nom du roi Arthur, et on trouvait quand même assez invraisemblable qu'en Bretagne, il n'y ait rien là-dessus. Et ça, c'était pour nous la nécessité. Il fallait bien qu'un jour, quelque chose arrive. Le hasard, ça a été, alors là, les faits prennent parfois des visages très étranges. Le hasard, là, ça a été le ministère de l'aménagement du territoire. Bon, c'est pas comme ça qu'on imagine forcément les interventions venues de très haut, venues de l'autre côté de voile. Mais on a obtenu un premier des fonds. Il fallait créer quelque chose qui soit à la fois touristique et culturel, qui soit à la fois enraciné vraiment dans un lieu et qui ait une portée européenne, qui résonne de manière générale en Europe. La légende arthurienne et son versant breton, donc la forêt de Brocéliande s'imposait. Nous avons l'idée de créer un centre, donc centre de l'imaginaire arthurien. Le nom a beaucoup fait rire, parce que pour les gens c'était un centre imaginaire, donc ça n'existait pas, comme si l'imaginaire n'avait pas de réalité, bien sûr. Et nous étions en contact avec quelqu'un qui a été notre parrain, c'est Gilbert Durand, qui avait créé les centres de recherche sur l'imaginaire, et qui a eu la gentillesse de me dire très très bonne idée de nous diriger vers des parrains assez prestigieux comme Duby, enfin vous voyez des grands noms plutôt de l'histoire d'ailleurs ou de la littérature. Et la dernière chance a été qu'on nous prête un lieu absolument unique qui est le château de Combert, Combert en Brocéliande, qui n'est pas un chef-d'œuvre d'architecture mais qui est tellement de placement absolument merveilleux. La forêt, le lac qui porte la légende de la ville de Vianne et les murs qui portent l'histoire de la région. Donc là, on avait ce qu'il fallait pour démarrer, plus, on parlait tout à l'heure des puissances de l'argent. Moi, je ne veux pas d'angélisme, si on veut faire un certain nombre de choses, un peu d'argent ne fait pas de mal, et l'instant, on n'en fait pas son but unique de recherche dans la vie. Et le titre choisi, je vous disais donc, c'est en résonance avec ces centres de recherche de Gilbert Durand, mais c'était aussi les mots en leur sens, arthurien, donc c'était la matière arthurienne dans toute sa déclinaison, là en partant du monde celtique et en arrivant jusqu'aux jeux vidéo, voilà, en passant par la littérature médiévale, évidemment, en passant par la recherche aujourd'hui, en passant par les arts plastiques, le cinéma, on pouvait explorer, donc chacun pouvait explorer ce qu'il voulait. Centre, évidemment, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve, vient se regrouper. Évidemment, autour du centre, il y avait en filigrane cette idée de table ronde. On ne voulait pas l'exprimer directement, mais elle était là. Et de l'imaginaire, c'est pour bien dire qu'on ne voulait pas se limiter à une forme précise ou à un volet précis. C'était la recherche, plus la création, plus l'art, plus juste l'amateur qui avait envie de rencontrer tous les gens qui avaient quelque chose à dire sur ce... plus que cette légende, sur cet univers. Donc on a créé ce centre de l'imaginaire arthurien il y a 26 ans maintenant, avec l'idée d'avec un peu de chance, ça durerait 2 ou 3 ans. Et il s'est toujours trouvé quelque chose qui a fait qu'on a pu prolonger, et on est toujours là. Et on est toujours là, et pour moi ça fait partie de la puissance et de la magie de cette légende et de ces lieux. Il y a toujours une succession de gens qui sont venus au bon moment, apporter leur partie, la partie à jouer dans cet ensemble. Et le deuxième élément merveilleux, là je vais parler à titre tout à fait personnel, quand on s'engage là-dedans et quand on voit que ça commence à durer, on a une crainte. On se dit, moi j'adore cette matière, elle m'est essentielle. Est-ce que je ne suis pas en train de tuer ce bonheur que j'y trouve? Est-ce que je ne vais pas ressasser? Est-ce que je ne vais pas me trouver comme un perroquet à raconter aux gens voilà, l'histoire du roi Arthur et à m'entendre parler comme un guide qui a trop raconté la même histoire? Eh bien, pas du tout. Cette histoire, cette légende, ce qu'elle a généré est d'une telle richesse et d'une telle profondeur qu'au bout de 26 ans, moi, personnellement, je n'en suis pas venue à bout. Peut-être que je suis un peu lente, je ne sais pas. Mais je crois quand même qu'il y a encore des choses à découvrir, que ce soit dans le passé, dans ce qui a été écrit, dans ce qui se cherche aujourd'hui, et puis aussi dans tous ces gens nouveaux, comme ceux que je vois là en ce moment. Chacun me dit quelque chose de nouveau, chacun m'apporte quelque chose, chacun a sa lecture, parce que c'est la grande vertu de la légende, des légendes en général et de celle-ci en particulier, c'est d'ouvrir des portes infinies. D'ouvrir des portes infinies sur tous les domaines. Et ça, c'est le grand apport de ce monde qui pourrait paraître si éloigné de nos préoccupations d'aujourd'hui et qui, moi, me paraît absolument indispensable à la vie quotidienne, du moins à l'antidote de la vie quotidienne.
Merci, je partage. Donc cette histoire d'Arthur, j'avais envie de dire ces histoires d'Arthur, cette matière de Bretagne, puisqu'on a là une naissance de la littérature, est tout à fait pléthorique. Alors, est-ce que tu peux nous démêler un petit peu tout ça? Voilà, comment ça commence, comment ça évolue, quand arrive tel personnage?
Je vais changer un peu de registre. C'est presque un petit cours de littérature auquel je vais me livrer, mais je crois que de temps en temps, c'est bien de revenir aux fondamentaux. Le savoir, pour moi, n'empêche pas le rêve, au contraire. Le savoir nourrit le rêve, nourrit l'imaginaire, nourrit la création, et la rigueur n'a jamais gêné quoi que ce soit. Donc, au sens strict, jusqu'au XIIe siècle, on n'a pas de littérature en langue vulgaire, en langue vernaculaire, on n'a pas de littérature qui soit uniquement de fiction. On a des livres utiles, on a des livres de savoir, on a de la poésie, on a des livres qui sont en général, le savoir étant latin. Et tout d'un coup, on a cette révolution de donner le livre, du moins le contenu du livre, parce que vous, pas tout le monde ne le lit pas, mais donner le contenu du livre accessible, au moins au travers du lecteur qui pourra le répercuter aux autres, donner le contenu du livre à tout le monde, et un livre qui est là juste pour le plaisir, juste pour la distraction. Et au tout début, dans les premières années du XIIIe siècle, en 1200 exactement, il y a un théoricien, un auteur d'épopée à la française, qui s'appelle Jean Bonnel, qui est connu d'ailleurs pour des spécialistes, et qui écrit avec une espèce de plume lourde de reproches. Il dit voilà, pour qu'il veut écrire dans cette forme nouvelle qu'il vient d'inventer, et qui s'appelle le roman, puisqu'il est écrit en langue romane, donc cette langue populaire, notre français en devenir. Il dit pour qu'il veut écrire un roman, il y a trois matières. Parce que le Moyen-Âge pose en principe qu'il n'y a qu'un seul créateur, Dieu, et que tous les autres, vous et moi, on ne crée pas, on ne fait jamais que reprendre des choses existantes, et que prétendre à toute autre chose serait d'un orgueil et ce serait une faute grave. Donc Jean Bonnel explique que si on veut écrire un roman, on emprunte à ce qui existe déjà, et il dit pour écrire un roman il y a trois matières, et on voit bien le mot matière, prenez-le au sens de matériaux. Trois matières, il y a la matière de Rome la Grande, c'est tout l'héritage gréco-latin, qui n'est pas si ignoré qu'on le pense d'ailleurs du Moyen-Âge, qui est juste sélectionné et qui est juste interprété au regard d'une société qui, qu'on le veuille ou non, est extrêmement chrétienne, extrêmement christianisée dans ses présupposés. Donc matière de Rome la Grande. Ensuite, il y a la matière de France. La matière de France, c'est l'épopée, c'est, prenons un seul exemple, la chanson de Roland.
Charlemagne,
tout le cycle de Charlemagne, le cycle des Narbonnais, la chanson de Guillaume d'Orange. Donc on est là dans l'épopée, on est plus dans un récit guerrier qui célèbre, qui exalte des vertus qu'on n'appellera pas encore patriotiques, mais qui relèvent déjà un petit peu de ce registre-là. Et la troisième, dit-il, c'est la matière de Bretagne. Et il ajoute qu'il faut reconnaître que des trois, celle qui plaît le plus, c'est la matière de Bretagne, qui est séduisante, mais qui est vaine. Et quand il dit vaine, c'est qu'elle est vide, elle n'a pas de réalité tangible. Elle ne fait pas appel à un patrimoine écrit, moral et philosophique, comme la Grèce et Rome. Elle ne fait pas appel à de l'histoire et à des sentiments réalistes par rapport à un pays, comme la matière de France. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces histoires vides, on vous parle de fées, on vous parle de passage dans l'autre monde, on vous parle de héros aux poids infinis, on vous parle d'un roi qui ne meurt pas. Eh bien, c'est ça qui plaît au public. Et ça, c'est le premier mystère, d'ailleurs, de la légende arthurienne. C'est pourquoi, dans tout l'échantillon, dans tout l'éventail de ce qui est proposé aux auteurs, pourquoi c'est l'Europe entière qui va se prendre de passion pour la légende du roi Arthur. Et quand je dis l'Europe entière, je reviens sur ma chronologie. On commence, en gros, le roman. Je dis bien le roman. Le roman s'inspire de cette première histoire des rois de Bretagne, écrite en latin, en Grande-Bretagne, mais qui est un ouvrage de pseudo-histoire, et qui est un ouvrage de commande, un ouvrage politique au service des rois d'Angleterre. Mais juste après, cette matière est transformée en roman, d'abord par un clerc anglo-normand qui s'appelle Wass, qui commence à écrire le roman de Roux et le roman de Brut, dont le roman de la Normandie et le roman de la Bretagne, dans lequel il intègre Brocéliande, la Table Ronde. Geoffroy de Mandenousse avait déjà amené Arthur, Merlin, un certain nombre d'exploits guerriers. Par là-dessus arrive Chrétien de Troyes, 1170-1190 en gros. Je ne vais pas discuter des datations, mais on y sera encore demain. Donc Chrétien de Troyes pose un certain nombre de personnages, amène un personnage important, parce que tous ces personnages, c'est comme au théâtre, c'est par ordre d'entrée en scène. Vous allez avoir d'abord Arthur, Merlin, Gauvin et deux, trois autres, Yvain. Et puis les autres chevaliers vont arriver. Et Chrétien de Troyes amène deux chevaliers essentiels. Il amène Perceval et Lancelot, qui ne sont quand même pas des moindres quand on s'intéresse au domaine arthurien. Et Chrétien de Troyes, on le sait bien, meurt en laissant inachevé le conte du Graal. Et derrière lui, vont s'empresser de reprendre son œuvre inachevée. C'est sans doute la meilleure chose qu'il a pu faire pour la littérature médiévale, c'est de mourir sans finir son roman. Donc, quatre grandes continuations en vers, et ensuite des auteurs en prose qui reprennent ce thème et qui, eux, ce sont eux qui vont le christianiser à outrance. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, encore je reviens sur l'esprit médiéval parce qu'on comprend mieux la jeunesse du roman. Pour le Moyen-Âge, le vers n'est pas sérieux. Le vers dit la fantaisie. Fantaisie, pratiquement, hein, pourrais-je dire. Le vers dit l'irréel. Le vers dit la distraction. Alors que la prose dit la vérité, on écrit l'histoire en prose, on écrit le droit en prose. Les textes sacrés du christianisme ne sont pas écrits en vers, ils sont écrits en prose. Donc, en passant le roman arthurien du vers à la prose, vous dites attention, c'est vrai, ça a existé. Et là, on ne fait plus comme faisaient Chrétien ou les auteurs précédents, en des épisodes, et raconter l'histoire, une aventure de Lancelot, une aventure de Gauvin, ces petits romans épisodiques. Non, on va tout construire, et on va tout construire en fonction du Graal. C'est-à-dire que le Graal n'est plus un événement qui arrive à la cour d'Arthur. Toute l'histoire d'Arthur, Arthur et les chevaliers, ne sont là que pour faire advenir l'aventure du Graal. Donc, on a complètement inversé la perspective. Sauf que la matière celtique, la matière mythique celtique qui est à l'origine de tous ces romans qui va être utilisé plus ou moins profondément, plus ou moins transformé, se défend très très bien. Et même dans les romans christianisés de la quête du Graal, la grande suite de cinq romans, là, ce qu'on appelle la Vulgate, par assimilation à la Vulgate biblique, eh bien là-dedans, bien sûr, il y a cette teinture chrétienne, mais ça va quand même être l'étrangeté. Ce passage permanent entre ce monde, c'est dans l'autre, et l'autre, ses exploits, ces personnages féminins qui apparaissent ici et là au coin de la forêt, qui dirigent les destins masculins, la présence même de cette forêt, tout ça va subsister et donner une teinture extraordinaire qui aujourd'hui encore nous fascine, malgré l'imprégnation chrétienne que les auteurs veulent donner. Mais il faut quand même bien remarquer une chose, c'est qu'il n'y a jamais ni diabolisation, ni anathémisation, ni condamnation du monde arthurien par l'Église. Je veux dire que les princes de ce monde lisent et font écrire des romans arthuriens, on les infléchit, certes, mais il n'y aura jamais un moine ou un prêtre qui va dire « Si vous lisez un roman arthurien, vous êtes maudit. Vous, le roi qui lisez des romans arthuriens, vous allez être excommunié, le royaume va se trouver plongé dans les ténèbres et le chaos. » Non, non. On joue avec, et je pense même que l'Église, qui n'est pas forcément que négative dans ces temps-là, voit très bien ce qu'elle peut tirer de ce, ouais, de ce roman arthurien, d'abord, et aussi, également en tant que modèle de société, en tant que modèle de vie. Parce que on est aussi en train de détourner la chevalerie de sa violence primaire. C'est quand même un long combat mené par l'Église. La trêve de Dieu, une certaine rectitude dans les combats, les absences des périodes d'absence de guerre, l'Église les met en place. Et se servir de ces chevaliers arthuriens qui sont tellement exemplaires, c'est utile aussi. Vous n'allez pas faire ce que Lancelot n'aurait pas fait.
Des modèles. Ce sont des modèles.
Voilà. Et ce que je vous dis, ce qui était très extraordinaire, parce que je continue à trouver très extraordinaire, c'est que toute l'Europe, en 30 ans, ce qui n'est pas beaucoup, hein, ce moyen de diffusion, moyen de communication, en 30 ans, entre Chrétien de Troyes, entre 1770-80 et 1210, toute l'Europe se met à fonctionner, toute l'Europe. Évidemment, je parle de l'Europe cultivée, je parle de l'Europe du haut. Tout simplement parce qu'on ne sait pas ce que pensait l'autre. On n'a pas d'éléments pour dire comment était perçu, reçu. Est-ce que ça atteignait les couches populaires? Personnellement, je pense que oui, qu'il y avait parallèlement une oralité puissante sur ces thèmes-là. Mais là, je reste quand même dans le domaine de la vraisemblance ou de la supputation. Là où je ne suis pas du tout dans le domaine de l'hypothèse, c'est que de l'Espagne jusqu'à l'Écosse, de la France, jusqu'à l'Europe centrale, on écrit des romans arthuriens. On en retrouve en Islande. Le roi de Norvège fait traduire les textes arthuriens, qui vont être traduits, puis adaptés, puis en fait, vous aurez ensuite des créations. L'Italie va s'en emparer, donc il y a quand même une diffusion. Et si vous voulez, toute proportion gardée. Imaginez, là, il y a depuis quelques années, un gamin de Madrid parle à un gamin d'Helsinki et lui dit moi, ce que j'aimerais être plus tard, c'est être comme Dumbledore. Il faut comprendre tous. Eh bien, vous avez la même chose au Moyen-Âge. Si un chevalier se présente, un chevalier espagnol se présente à un chevalier allemand disant « Moi, modèle, c'est Gauvin », l'autre comprendra tout de suite à quoi il fait allusion. Vous voyez, c'est cette espèce de, malgré les conflits, malgré les divergences, il y a ce fond commun. Et personnellement, bon, peut-être que j'en rajoute un peu, c'est pas exclu, mais personnellement, je pense que c'est en gros le troisième langage commun de l'Europe à cette époque-là. Le premier étant la religion, on n'a pas encore connu les grands schismes, on n'a pas encore connu en Occident, hein. Je ne parle pas du schisme d'Orient qui est déjà accompli, en Occident, la religion est une. On a ensuite une langue, une vraie langue commune, une koiné, comme auraient dit les Grecs, qui est le latin, qui reste quand même la langue par laquelle tout le monde peut communiquer. Et après, je pense vraiment que cette légende arthurienne constitue un référent commun à l'ensemble de l'Europe. Et on va la retrouver donc, en écriture, mais on va la retrouver dans la vogue des prénoms, on va la retrouver dans le décor des maisons, on va la retrouver dans le décor de bâtiments officiels. Vous avez dans le XIIIe siècle, XIIIe, XIVe siècle, en Belgique, des chapiteaux de bâtiments publics qui représentent les chevaliers de la Table Ronde. Vous allez trouver des dallages d'abbayes en Angleterre qui vous racontent l'histoire de Tristan Iseult, qui fait aussi partie, bien sûr, de la matière de Bretagne, puisque les gens d'Arthurienne, c'est Arthur et les chevaliers de la Table Ronde. Matière de Bretagne, c'est ça, plus Tristan Iseult, plus les laits et les textes divers, anonymes ou non, qui traitent des mêmes sujets. Vous voyez, là, il y a quand même une espèce d'explosion, comme si, à ce moment-là, de notre évolution historique et culturelle, à ce moment-là, la légende arthurienne avait un langage dont on ne pouvait pas se passer.
Alors, j'ai deux questions. La première concerne la construction du personnage d'Arthur. Tu nous dis, Claudine, que, effectivement, l'Église va s'approprier à la fois Arthur et les chevaliers de la Table Ronde et les ériger en modèle. Effectivement, on est à cette époque en pleine mode, on va dire, de ce qu'on appelait les exemplats, c'est-à-dire ces petites histoires qu'on mettait dans les sermons pour édifier les masses. Donc, voilà, on prend ces modèles-là, c'est ce que tu nous as expliqué, parce qu'ils vont servir. Et comment expliques-tu qu'à un moment donné, ça va basculer, en particulier avec Arthur, on en parlait en off tout à l'heure, Arthur et les chasses sauvages, voilà, les chasses fantastiques.
En fait,
voilà.
Arthur bascule deux fois. Voilà. Parce qu'Arthur, bon, il y a tout ce débat sur qui était Arthur. En fait, on vous citera toujours les mêmes références. Il y a quelques textes, ils ne sont même pas des textes, quand on vous parle par exemple du Gododine qui raconte l'épopée de tribus du sud d'Édimbourg, un texte qui est supposé être du 6e siècle mais écrit au 9e, donc vous imaginez déjà tout ce qui a pu disparaître ou se modifier entre. Dans ce livre-là, qui s'appelle donc le Gododine, il y a une mention d'Arthur. On vous parle d'un guerrier, la phrase est connue en disant c'est un excellent guerrier, il nourrissait les corbeaux, on nourrit les corbeaux avec les cadavres de ceux qu'on a tués. Hein. Il nourrissait les corbeaux, bien qu'il ne fût pas Arthur. Donc ça veut dire que celui-là est excellent guerrier, Arthur était encore meilleur. Mais qu'est ce Arthur? On ne sait pas si c'est un nom, on ne sait pas si c'est un titre. On sait qu'il y a une référence, la racine vous renvoie à l'ours, qui est le symbole royal chez les Celtes, mais c'est quand même assez léger. Et vous allez avoir comme ça 3, 4, 5 apparitions du nom d'Arthur. Les historiens, ou du moins ceux qui chroniquent, dans le temps le plus proche de celui qui est attribué au vrai Arthur, entre guillemets, c'est-à-dire le 5e siècle, les historiens n'en parlent pas. Alors on invente des histoires en vous disant « Ah, ils n'en parlent pas parce qu'ils étaient très fâchés contre cet Arthur qui avait accompli des horreurs, qui avait tué des gens. » Mais ça, c'est une vraie méconnaissance de l'esprit du Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, si quelqu'un fait quelque chose de détestable, c'est l'anathème qu'on va jeter sur lui. On va lui dire qu'il est issu du diable, qu'il a des pieds de bouc et des oreilles de cochon et qu'il crache le feu. On va en parler, et on va en parler le plus mal possible, on ne va pas l'ignorer. Donc si l'historien, je veux dire, le chroniqueur de ce temps-là n'en parle pas, c'est peut-être que justement, il n'y avait pas grand-chose à dire. Et puis ce personnage-là ne va apparaître que vers le 11e siècle, alors avant, vers le 10e siècle, avant Geoffroy de Montmousse, on a quelques traces d'Arthur, et très curieusement dans des vies de saints. Des vies de saints écrites au Pays de Galles. Et Arthur est déjà mentionné comme un roi chrétien, mais comme un mauvais chrétien. Parce que dans une vie de saint, qui est important? Le saint.
Oui.
Donc, le triomphe du saint, ça va être d'être plus fort que le grand roi Arthur. Que ce roi qui n'est quand même pas un païen, mais qui se comporte mal. Par exemple, le roi Arthur est au bord de l'eau, il y a un saint, les saints celtiques sont très gyrovades, ils se promènent beaucoup, donc ils se baladent avec ce qu'ils faisaient à l'époque, un petit hôtel portatif, il arrive son canot tout à fait plouf, il coule. Il coule, lui, il arrive à regagner la rive, et son hôtel s'échoue un peu plus loin, le roi Arthur ramasse son hôtel, et c'est bien que c'est un objet sacré, mais va marchander, en lui disant, moi je te rends ton hôtel si tu me donnes 20 vaches. Vous savez, on reste dans un pays, dans des cultures où la richesse essentielle, c'est la vache. Où comparer une femme à une belle vache, extrêmement, c'est un grand compliment, c'est pas du tout. Les épopées d'Irlande, le roi Ailill et la reine Maeve se disputent à qui aura le plus beau troupeau et le plus beau taureau. Vous voyez, c'est pas du tout une plaisanterie rustique. Donc le roi veut 20 vaches, veut 20 belles vaches, et le saint lui dit « je te les donne », et lui donne. Il reprend son hôtel, il s'en va. Et le roi Arthur retourne vers ses vaches, et ses 20 vaches, ce sont 20 tas de fougères. Donc une fois de plus, le saint qui est volontiers magicien, il n'y a pas de souci de ce côté-là, le saint va l'emporter sur le roi, et on va avoir ainsi une série de victoires. Alors il y a Saint Padarn, il y a Saint Cadoc, il y a Saint Carantoc. Donc première apparition du roi chrétien, pas si bon que va l'ériger la table ronde. Et donc, ensuite, on va avoir la construction du grand roi Arthur par Geoffroy de Montmousse, le grand roi conquérant, la meilleure partie de l'histoire des rois de Bretagne, c'est son règne, et 12 années de paix glorieuse, la Pax Arthuriana, on a eu la Pax Romana, c'est tout à fait calqué là-dessus. Et puis, les romans de la Table Ronde vont revenir sur ce roi Arthur en lui donnant un rôle limité. Au début du royaume, il est actif, ensuite il devient le garant du royaume, de la richesse et de la stabilité du royaume. Mais là aussi, héritage celtique, il ne doit pas mettre son corps en danger parce que toute blessure, le corps du roi figurant symboliquement le corps, la terre du pays, toute blessure au corps du roi entraîne une blessure au pays, donc la stérilité, le malheur. L'absence de revenus, la terre dépérit, c'est l'histoire de la vaste terre, c'est l'histoire du roi pêcheur qu'on retrouve là. Donc le roi va devenir une espèce d'image très en arrière, très effacée, et peut-être qu'il laisse même trop faire de choses. Et les romans vont se continuer, et dans la partie où on christianise le plus, ce roi qui reste quand même ambigu malgré tout, ce roi qui se laisse tromper par sa femme tout à fait consciemment, quoi qu'on en dise, il le sait. Il le sait et il ne peut pas faire autrement. Parce que là encore, dès l'instant, il n'est plus le guerrier. La reine Guenièvre n'a plus l'époux qui convient. Elle doit épouser un roi qui soit à la fois un souverain juridique et sacré et le meilleur des guerriers. Alors si Arthur reste un souverain juridique et sacré, il n'est plus un guerrier. Dans Guenièvre, et ce n'est pas une simple histoire d'adultère, c'est une histoire d'amour extrêmement belle, mais qui n'a pas la puissance, quoi qu'on en dise, de Tristan et Iseult, jamais. Par contre, Guenièvre reconstitue, en quelque sorte, l'élément manquant à ses côtés, puisque dans ces histoires, elle est la souveraineté, autant qu'Arthur est le roi. Elle a besoin donc du guerrier, et le meilleur des guerriers, c'est Lancelot. Et l'adultère de Guenièvre est toujours là en substance, et avant que Lancelot n'arrive, on a des textes plus anciens où on voit qu'elle regarde avec assez d'intérêt vers un chevalier qui s'appelle Ider. Ensuite, elle a un lien privilégié et équivoque aussi avec Gauvin. Et on voit aussi dans certains textes qu'il y a, alors est-ce une liaison ou est-ce une union forcée, il y a Mordred aussi dans le circuit. Mais de toute façon, la reine est par essence infidèle et ça n'a rien à voir avec une morale d'aujourd'hui. Ceci dit, ça donne quand même en fin de course à Arthur une allure extrêmement équivoque. Vient s'y ajouter l'adultère et l'inceste que lui va commettre, malgré lui, mais ça ne compte pas que ce soit malgré lui, donc avec sa sœur, que ce soit Morgane ou Morgose, ou un des calques de Morgane. Tout ça va finir par donner une image quand même assez noire du roi, qui va donner ce roi cruel qu'on retrouve dans ces fameuses chasses sauvages, ces chasses fantômes qui traversent le ciel à certaines périodes de l'année et qu'il ne faut ni regarder ni apostropher, sous peine ou de rejoindre la chasse sauvage ou de voir tomber devant soi des cadavres ou des morceaux de cadavres. Mais c'est vrai que Arthur reste quand même, et Arthur en plus est un non-mort. Rappelez-vous que l'histoire vous dit à la fin, le roi s'en va dans l'île d'Avalon, il reviendra un jour, il est en dormition. L'Église ne peut pas accepter cette dormition qui est réservée au corps saint et au corps sacré, qui est en fait la dormition faite pour la Vierge, puisqu'on dit que le corps qui a porté le Sauveur ne peut pas pourrir. En concret, cette idée, alors, elle va dormir éternellement. Alors voilà que le roman s'en empare et la transfère sur un roi qui, lui, n'a rien quand même, n'a pas porté le Sauveur, et pour cause. Donc tout ça fait du roi Arthur quelque chose d'un peu bizarre. Et on a aussi, dans les éléments à charge pour le roi, on a aussi le roman de Wass, de Layamon. Layamon qui est quelqu'un qui écrit en vieil anglais, juste après Chrétien de Troyes, et il donne une image extrêmement violente et cruelle du roi Arthur. C'est le seul. Mais là, on a un roi qui torture ses prisonniers, qui fait couper le nez des femmes qu'il a capturées, qui vraiment se comporte de manière extrêmement brutale et sauvage. Donc il y a une espèce de ligne qui, derrière le très bon roi, projette une ombre. Projette une ombre, et je pense que c'est celle-là qu'on retrouve ensuite dans le reste.
Dans ces chasses, donc, pour ceux qui ne les connaissent pas, ces chasses sauvages sont très en activité dans les croyances à la fin du 19e siècle encore. Voilà, certes, ce ne sont pas des croyances qui sont uniquement liées au Moyen-Âge.
Voilà, petite publicité qui n'est pas pour moi, Fred Vargas, La chasse furieuse. Si vous ne l'avez pas lu, vous allez retrouver l'usage qui en est fait. Et on voit bien que la croyance n'est pas tout à fait effacée. Que cette chose-là ne parte pas, donc c'est la chasse Artus, la Ménielquin, la chasse...
Enfin, Georges Sand disait, oui. Il y en a autant que de cantons.
Oui, mais c'est voilà, vrai, c'est vrai.
Chacun a sa chasse.
Et elle a été exportée, elle s'est exportée en Nouvelle-France, au Canada, la chasse-galerie. Et elle se transforme, comme tous les éléments légendaires, elle se transforme. C'est-à-dire que chez nous, on va avoir d'abord le roi qui chevauche en tête, ça peut être le roi Erla aussi en Angleterre, qui chevauche en tête, ensuite des chevaliers plus ou moins décomposés d'ailleurs, selon les témoins. Et puis après, des gens qui suivent à pied en hurlant, en pleurant. Au Canada, vous avez des canons iroquois aussi qui nagent dans les mers. Non, mais c'est bien dit.
Oui, bien sûr, voilà. Chacun avec sa culture.
Chacun avec sa culture reconduit. Et puis aussi, le canon iroquois, je pense que pour l'immigrant qui est venu du Poitou avec sa chasse-galerie, c'est quand même ce qui fait le plus peur. Le jour où les iroquois débarquent, on se sent moins bien quand même.
Alors, mon autre question, c'était Arthur, personnage historique.
Oui, alors j'avais un petit peu...
Voilà, juste, il y avait deux sous-questions dans celle-là. C'est-à-dire, est-ce qu'au départ, il y aurait, bien que tu en aies parlé un petit peu, une tradition orale dont on pourrait penser que, voilà, elle évoquait ces tout petits royaumes, parce qu'à l'époque, c'était des tout petits royaumes. Hein, et comment se crée donc ce personnage historique, puisqu'on dit aujourd'hui, ah ben oui, le Camelot était, alors il y en a un en Bretagne, il y en a un en Bretagne, voilà.
Alors, ce qu'il y a partout, c'est des Camelots, des tombes d'Arthur et des tombes de Merlin. Il y en a tellement qu'on finit par se dire que c'est difficilement possible. Alors, je vais revenir sur plusieurs choses. La constitution du personnage d'Arthur nous renvoie à la constitution au rapport qui est entre le mythe, l'histoire, la fondation d'une légende. Alors, on a tendance à vous expliquer, parce que c'est rassurant pour nos esprits, qu'il y a d'abord un fait historique qui dérive en mythe, parce qu'on oublie, puis on le transforme, et puis on l'oublie. Personnellement, moi, j'aurais tendance à penser à l'autre, dans l'autre sens. C'est-à-dire que toutes nos cultures sont sous-tendues par des grands mythes, qu'on ne lit pas forcément. D'ailleurs, un mythe actif, on ne doit pas le lire, on ne doit pas le distinguer. Ensuite, effectivement, il peut devenir légende, et l'histoire peut lui donner des habits. Soit qu'elle s'en serve sciemment, soit qu'inconsciemment on le reconduise et on le relise, et on le lise à travers des faits historiques. Mais pour en revenir à Arthur, Arthur qui donc serait un souverain plus ou moins grand, plutôt petit, devenu une légende. Bon, vous avez trois personnages à qui ça arrive, ça, dans les périodes qui nous précèdent. Arthur, Alexandre et Charlemagne. Alexandre et Charlemagne pourraient très très facilement faire la part des choses. Vous avez la légende de Charlemagne, on parlait tout à l'heure des épopées, l'empereur à la barbe fleurie qu'il n'a jamais portée, Roland, préfet des Marches de Bretagne, qui fend le roc de son épée de haut en bas, mais là, vous êtes clairement dans la légende de Charlemagne. Mais si vous cherchez l'histoire de Charlemagne, vous allez la trouver. Vous allez trouver des arts. Oui, mais quand même, on est quand même au 9e siècle. Les écrits sur Arthur datent du 9e, 10e, 11e.
Oui, en écrit.
En écrit, voilà, d'une part. Alexandre, là, on est quand même 4 siècles avant Jésus-Christ. Si vous êtes dans le nord de l'Inde, dans l'Asie centrale, vous allez trouver extrêmement une abondance incroyable de légendes sur Iskander, sur les passages de ses armées, sur tout revient à Alexandre, tout monticule inexpliqué, tout ruisseau qui fait des tourbillons incroyables, c'est toujours Alexandre. Or, on sait à peu près ce qu'a fait Alexandre, combien il a une vie très courte, combien de temps il a vécu. Donc là, vous avez exactement, vous voyez bien, histoire et légende. Et comment, à partir de l'histoire, on bâtit une légende. Mais la légende n'efface pas l'histoire. Si vous retournez vers Arthur, la légende, vous l'avez. Et vous l'avez copieusement, mais où est l'histoire? Où est l'histoire? Quand on parle d'histoire, c'est quand même... L'histoire est une science humaine. C'est un bel oxymore, ça, mais quand même. L'histoire suppose, à défaut d'être une science, du moins des repères particuliers et précis. C'est-à-dire, il y a des monuments, il y a des actes et il y a de l'écriture. Alors, il n'y a aucune écriture historique sur le roi Arthur. Alors, de temps en temps, on vous sort un petit bout de caillou. Là, le petit bout de caillou qui était sorti il y a 10 ans en Cornouaille, il y avait un nom qui s'appelait Artognou. On dit, vous voyez, Arthur a existé. D'abord, c'est Artognou, une forme dont on ne sait pas si elle est cornique ou grecque. Un caillou gravé est difficilement datable. Un bout d'ardoise, je suis désolée, ça ne va pas chercher très loin. On n'a jamais aucune preuve. On a la preuve qu'en Angleterre, ou en Cornouailles, ou au Pays de Galles, il y avait des gens au 5e, 4e, 3e siècle de notre ère. Mais ce n'est pas une révélation. Nous sommes dans des régions où, Angleterre ou France, on tape Bretagne, on tape dans le sol et on trouve tout ce qu'on veut jusqu'à moins 5000. Après, c'est un peu plus épars, mais... Donc, pour Arthur lui-même, on n'a pas le corpus historique qui correspond. Par contre, ce qu'on a, et ce qui est très important, c'est que c'est l'histoire qui s'empare du roi Arthur. Et il y a comme une nécessité politique à construire ce roi Arthur. Je vous parlais de Geoffroy de Monmouth. Geoffroy de Monmouth est au service des Plantagenets. Les Plantagenets sont à la fois des conquérants, donc des envahisseurs pour la Grande-Bretagne. Donc, il va falloir qu'ils se justifient. Et ils font écrire... l'antiquité de l'histoire de leur pays par un clerc qui est... Imaginez quand même un évêque du pays de Galles qui s'amuserait à ne pas écrire ce que le roi souhaite. Honnêtement, je ne trouve pas ça très pertinent. Donc il va glorifier le roi Arthur pour dire, voilà, avant les Plantagenets, il y avait ce roi Arthur, il est dans la droite ligne de ce royaume-là. Et ce livre est très bien fait, parce que quand on le lit, on peut croire que c'est une histoire. Geoffroy intègre des éléments historiques, sauf qu'ils sont totalement anachroniques, mais réunissant tout ça en faisceau, ça donne une apparence de réalité historique. Sauf que quand même, quand il vous explique quand les Romains débarquent dans l'île de Bretagne, cette île toute blanche, elle n'est peuplée que de géants. C'est là, peut-être prendre une distance tout de suite entre la réalité historique et la réalité mythique. Et ce qu'on voit ensuite, c'est que cette espèce de mainmise sur le roi Arthur, elle va toujours être politique. Vous allez la trouver en Grande-Bretagne tout le Moyen-Âge, puisqu'on va avoir, donc là je vous parlais du début, on va avoir ensuite la découverte de la prétendue tombe du roi Arthur par Richard, c'est pas Henri II en fait, c'est Richard Cœur de Lion qui... Le rêve était d'Henri II, mais c'est Richard Cœur de Lion qui fait trouver les objets, les grands os à Glastonbury, parce qu'il y a une chose très drôle, c'est que le Moyen-Âge prend les choses au pied de la lettre. Vous regarderez sur les enluminures, le personnage, le plus grand personnage du dessin, il est plus grand que les autres. Le roi Arthur était un grand roi, quand on trouve sa tombe, il a des fémurs de 1m50, quoi. Enfin, il est extrêmement grand. Donc on a besoin d'asseoir cette réalité historique parce qu'elle justifie le royaume aussi. Elle justifie la dynastie qui est en place. Et ça va se reproduire quand les Plantagenets passent la main. Les Tudors arrivent et disent, mais attendez, c'est nous les héritiers du roi Arthur. Il était gallois comme nous. Puisque ceux qui le représentaient, c'était le dragon rouge. Vous savez, le combat des deux dragons, là. Le dragon rouge, or... Le drapeau gallois, déjà à ce moment-là, notre drapeau, c'est un dragon rouge. Et vous allez retrouver ça au XIXe siècle, avec Victoria et son Albert, qui sont quand même tous les deux, plus ou moins récemment, mais allemands. Elle est l'héritière des souverains hanovriens, et lui est un Saxe-Coburg-Gotha. Vraiment allemand, franchement importé. Et qu'est-ce qu'ils vont choisir? Bon, d'abord moralement, parce qu'on revient à cette image morale de la chevalerie de table ronde, ils vont choisir de se référer au roi Arthur, mais aussi pour eux c'est un brevet d'anglicisation et de celtisation. On est de cette île puisque on est les descendants du roi Arthur. Et vous allez retrouver ça aussi, on le retrouve aussi plutôt en France, pas en France, en Bretagne, au moment où François II de Bretagne, le père d'Anne de Bretagne en fait, François II... commence à faire réécrire l'histoire de Bretagne et on sent bien que le royaume de France est là et ne va plus lâcher le morceau. Il meurt, sa fille prend sa suite et elle a le même aumônier qui est aussi son historien. Elle fait écrire donc l'histoire de la Bretagne, du royaume puis du duché de Bretagne. Et il y a un amalgame complet de la fondation du royaume de Bretagne avec ce roi mythique breton qui est Conan Meriadec, mais on raccroche tout ça à une espèce de copie de l'histoire des rois de Bretagne. Il y a le roi Arthur, ses liens avec la Bretagne, et on place la Bretagne sous l'égide du roi Arthur pour dire on est plus ancien que le royaume de France. Le royaume de France n'existait pas, qu'on avait déjà le royaume d'Arthur. Arthur était chrétien, que vous ne l'étiez pas encore. Ils évacuent complètement Clovis, qui est quand même à la naissance du royaume de France et de la christianisation donc, du royaume. Et on va retrouver ça jusque dans des terres lointaines, puisque Arthur est roi de Troie, roi aux trois couronnes, ou roi aux 13 couronnes. Et les 13 couronnes englobent tous les pays germaniques et scandinaves. Et il y a entre autres des grandes chroniques, ce qui est maintenant la Belgique, des grandes chroniques de Flandre, des grandes chroniques de Hainaut, qui intègrent elles aussi l'histoire du roi Arthur. Vous avez des magnifiques enluminures de ces chroniques-là, représentant le mariage d'Arthur et de Guenièvre. On se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Non, là encore, l'histoire des rois de Bretagne est intégrée, et on vous dit qu'Arthur était aussi roi de ses terres, puisqu'il avait vaincu les Saxons. Il avait pris leurs terres. Donc il était aussi roi de ce pays-là. Et vous voyez, chaque fois, il y a une espèce de mouvement d'emprise nationaliste qui fait qu'on a besoin d'Arthur.
Comme un génie tutélaire, en fait.
C'est une référence.
Une racine.
Mais il faut qu'il ait été vrai. Il faut qu'il ait existé. Alors que la France va être vraiment le pays de la littérature arthurienne. On va toujours rester dans un registre littéraire. On va évoluer, on va transformer, on va modifier la teneur. On a parlé de la christianisation, des personnages lumineux du début comme Gauvin qui vont être noircis parce que se ressentant encore trop d'une antiquité païenne, les personnages de fées qui disparaissent, ou alors comme Viviane qui sait rester chaste, cette immense vertu de chasteté, elle va être sauvée, Morgane va être virée complètement, on va même lui retirer sa beauté. on va vous dire, bon, une fée reste jeune et belle éternellement. On va vous dire de Morgane, non. En fait, Morgane, c'est une, elle trafique. Elle a tellement mis d'onguents pour rester belle qu'elle s'est gâtée la peau. Ouais, les onguents, ils permettaient quand même du mercure et autres joyeusetés qui vous abîmaient la peau. Mais Morgane, on lui retire ce pouvoir féerique d'éternité, de beauté, de jeunesse. Mais même comme ça, la France reste dans un axe complètement littéraire et artistique au sujet de la légende arthurienne.
Alors, donc on a bien compris, tu nous as bien démystifié Arthur à défaut de le démythifier.
Arthur historique, j'ai démystifié.
Voilà. Et alors, qu'en est-il de notre druide Merlin l'Enchanteur ?
Alors, là, je vais encore revenir à Geoffroy de Monmouth. Il y a un ou des Merlins, ou du moins des personnages proches de Merlin dans tout l'espace celtique. C'est-à-dire que ce sont des prophètes, des inspirés, des fous de la forêt. Ce sont des personnages qui peuvent avoir été rois dans la vie de Merlin, Geoffroy de Monmouth. Merlin était roi, était guerrier, a perdu une guerre, en est devenu fou, se réfugie dans la forêt, se retrouve gratifié du don de divination, qui est un don très douloureux. C'est très dur de voir l'avenir, c'est très dur d'expliquer ce qui se passe. Et Merlin est quelqu'un qui prophétise en pleurant tellement là. C'est une déchirure et une peine de dire l'avenir. Mais on a donc ce Merlin-là. Chez les Irlandais, on a celui qui s'appelle Swinney, ça s'écrit Swinney, puisque vous savez que c'est la vieille formule, hein, l'Irlandais, ça s'écrit comme une chose, ça se prononce élastique. Hein. Donc Swinney, qui est un personnage, là encore, le même principe, qui devient fou, qui part dans la forêt, qui vole pendant 7 ans d'arbre en arbre. Merlin est un personnage qui se métamorphose. Là, chez Swinney, il ne se métamorphose pas, il a le pouvoir de quelqu'un d'une autre nature, d'une autre partie de la nature, de l'oiseau. Vous avez trouvé la même chose en Écosse avec un personnage qui s'appelle la Loken. C'est toujours la même chose. Mais dans tous les cas, c'est Geoffroy de Monmouth qui a l'idée de prendre d'un côté ces récits qu'il connaissait sur le roi Arthur et de l'autre ces récits qu'il entendait aussi sur Merlin. C'est lui qui va les réunir en faisant ce que tu disais, le couple druide et roi qui, même s'il n'existe plus dans la société, reste très important dans ces récits que les bardes continuent à colporter, qui sont des récits qui sont accueillis dans toutes les cours d'Europe. Et si vous analysez le rapport de ces deux personnages, une fois que Geoffroy a reconstitué le couple, vous avez le roi, qui est à la fois, qui a quand même une notion sacrée dans le roi, mais ce n'est pas lui l'interprète direct, c'est pas lui, je veux dire, la communication directe avec les puissances de l'autre côté. Il lui faut quelqu'un qui les traduise et qui les aide. Ça va être Merlin. Et Merlin va être à ses côtés, comme le druide, pour le droit, pour la guerre, parce qu'on oublie toujours que le druide était guerrier également. On en a une ou deux traces chez César qui nous parle d'Iviacus, mais dans les romans arthuriens, entre autres dans celui qui s'appelle Les premiers faits du roi Arthur, qui est un début de Merlin, eh bien on voit Arthur, jeune roi, qui a retiré l'épée, mais il ne sait rien faire. Il est sorti de son enfance un peu bouseuse là, au nord de l'Angleterre, et c'est Merlin qui va prendre les choses en main, y compris le combat, et qui va lui dire non. Moi, je serai le stratège, je te dirai quoi faire. Et même l'étendard au dragon, c'est moi qui vais le tenir, parce qu'en gros, cet étendard au dragon est trop puissant pour le jeune roi. Il n'y a que Merlin qui peut le maîtriser. Donc Merlin va être aux côtés du roi, et avec cette chose qu'on trouvait chez le druide n'appartient à personne. Le druide va là où il veut bien, et dans l'Antiquité celtique, il va même le rouler, ce sont des services payants. Il va d'un roi à l'autre en fonction des besoins, de l'appel qu'on a. Et vous verrez que quand Merlin se met au service d'Arthur, Arthur c'est quand même sa créature. Dans le roman, Merlin fait naître Arthur. Le vrai père, au bout du compte, c'est lui. Eh bien, même s'il fait naître Arthur, même s'il sait qu'Arthur est indispensable dans le destin qui doit advenir, qui n'adviendra pas tout à fait, mais sans maîtrise, Merlin ne maîtrise pas tout non plus. Eh bien, même comme ça, Merlin va dire, quand je m'en vais, ne cherche pas à me retenir. Quand je pars dans la forêt, ça m'est indispensable et je ne suis pas à ton service. Et vous avez 2-3 épisodes dans les romans arthuriens, on voit Merlin partir au service de l'empereur de Rome, au service du roi de Jérusalem, parce qu'on a bien sûr, il y a encore ces royaumes chrétiens d'Orient et qui ne sont pas nommés, mais on voit bien que c'est à ça qu'il est fait allusion. Mais Merlin a cette liberté de mouvement, là encore, qu'est le druide. Le mot n'est pas prononcé parce qu'au XIIe siècle, on n'en parle pas. plume. On va retrouver ça vers le XVIe siècle, les Gaulois, les druides. Mais pendant le Moyen-Âge, le mot n'existe plus, mais la fonction est point par point la même. On a vraiment le couple druide et roi. Et ce n'est que quand le roi est prêt que le druide va s'abstraire, va repartir de l'autre côté, lui aussi dans l'île d'Avalon, dans la figure du paradis celtique, où il attendra, visiblement, il attendra le roi, enfin, non, il ne va pas parler d'Avalon, il attend que le roi parte dans l'île d'Avalon, lui est retiré dans la forêt d'un lieu de Viviane. Et on vous dit que l'enchantement qui enferme Merlin dans la forêt ne peut pas être brisé. Sauf que Merlin dit quand même, une des versions des romans dit, fait dire à Merlin, je me retire maintenant et je ne dirai plus un mot jusqu'au retour du roi. Donc il y a une fois de plus un lien extrêmement étroit entre la présence des deux. Et il ne dit pas que l'enchantement sera détruit. Peut-être restera-t-il prisonnier, mais on l'entendra à nouveau. On entendra à nouveau sa parole parce que le roi sera de retour. Mais c'est vraiment l'idée de génie de Geoffroy de Monmouth. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a recueilli des témoignages oraux? Là, on reste quand même complètement dans le vague, parce qu'il était évidemment, il était au bout du Pays de Galles, mais il était quand même en contact avec la cour d'Angleterre, laquelle cour d'Angleterre était quand même extrêmement proche de la cour de France, ne serait-ce que par les mariages à Aliénor et ses filles. Il y avait quand même une circulation des thèmes, des textes, de la culture de l'élite, qui fait qu'il est très difficile de dire qu'est-ce qu'il a eu en main, qu'est-ce qu'il a entendu. Les auteurs les plus scrupuleux vous disent qu'ils reçoivent leurs informations, leurs récits. Marie de France le dit, Chrétien un petit peu, on sait que ça circule comme ça. Mais qu'est-ce que Geoffroy, lui, n'en parle pas. Il ne dit pas où il a recueilli. Geoffroy, étant un homme d'église, s'abrite derrière ce qui est un lieu commun de tout le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on a encore mentalité médiévale. Plus les choses sont anciennes, plus elles sont fondées, plus elles sont justifiées et vénérables. Donc, je veux dire, on n'invente rien, on ne crée pas, on est auteur. Auteur, ça veut dire augmenteur. On prend ce qui existe déjà, on augmente de sa partie à soi. Donc Geoffroy va dire, moi je n'ai rien inventé, je me suis appuyé sur un vieux livre en langue bretonne, quand même une origine bretonne à ce moment-là, Grande-Bretagne, galloise peut-être. On est dans le domaine britannique, vous savez, les langues bretonnes ont deux grandes branches, les langues gaéliques, donc Écosse, Île-de-Man, Irlande, et les langues britanniques, Cornouailles, Pays de Galles, Bretagne. Arthur est plutôt dans la partie britannique. Même si dans la partie gaélique, on a des schémas mythiques qui ressemblent à l'histoire d'Arthur. Et donc lui, visiblement, s'abrite derrière cette hypothèse-là. Et Chrétien de Troyes va faire la même chose avec le comte Durral, en disant que le comte Philippe de Champagne lui a donné un vieux livre à adapter où il a trouvé cette histoire. Et pour les autres romans du Moyen-Âge, chacun en trouve très souvent cette espèce de topos du vieux livre. Sauf que jusqu'à maintenant, on a rarement mis la main, pour ainsi dire jamais mis la main sur aucun de ces vieux livres.
Oui, il est possible aussi, effectivement, comme tu le dis, que ce soit une façon poétique d'amener le récit, parce que la question des sources et des origines, elle est extrêmement contemporaine. Finalement, on se dépose aujourd'hui, on ne se déposait pas, l'histoire, le roman. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce que je pense qu'on doit être pas loin de... Claude n'a pas encore... 5 minutes. N'a pas encore fait les gros yeux, mais ça va pas tarder, là, je la vois. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claudine Blot? Oui.
Excalibur fait partie de tout un ensemble de talismans et d'épées, pas d'épées d'abord, mais de talismans qu'on retrouve dans le domaine celtique et même dans le domaine indo-européen. C'est-à-dire que c'est... Alors, Excalibur, par contre, il y a une équivoque autour d'Excalibur. Il y a deux épées, en fait, pour Arthur. Il y a même trois, mais la troisième, c'est anecdotique, c'est l'épée du géant Rita, c'est marmiadoise, c'est juste une épée qu'il a conquise comme ça. Mais une épée qui était quand même forgée. Alors là, quand je vous disais le croisement des sources, marmiadoise, troisième épée d'Arthur, battue par Vulcain, remise à Arthur. Le géant Rita se bat avec elle, Arthur va vaincre, c'est le géant qui coupe les barbes. Coupe les barbes, ce qui est une figure d'émasculation, en fait. Un homme qui n'a plus sa barbe redevient un petit enfant. Et ce géant va être vaincu par Arthur, qui lui n'a même pas encore de barbe. Donc on n'aurait pas coupé grand chose, mais il va gagner cette épée. Donc troisième épée, on la laisse de côté. Ceci dit, il y a l'épée dans la pierre, ou l'épée dans l'enclume, et il y a Excalibur. et ce n'est pas forcément la même. Parce que quand le roi Arthur débarque, il arrive, c'est un grand adolescent, le royaume est sans roi, et il y a cette épée dont on nous dit qu'elle apparaît un jour de Noël. Donc vous voyez, encore le mélange de christianisation et de thèmes beaucoup plus anciens. On mélange et ça passe. Hein. Et cette épée, il n'est jamais dit qu'elle s'appelle Excalibur. Il est juste dit qu'il est écrit sur le socle, sur la pierre ou en plume, que celui qui la retirera deviendra roi par la grâce de Dieu. Vous pouvez entendre de Dieu que vous voulez d'ailleurs. Et Arthur retire l'épée. Mais cette épée fait partie d'une série de trois épreuves. Retirant l'épée, il montre qu'il est le roi guerrier, digne de défendre le royaume. Il montre aussi, ça il ne faut jamais l'oublier, on pense toujours à l'épée comme élément dynamique. Mais l'épée n'est un élément dynamique que si la pierre ou l'enclume la laisse sortir. C'est là que se joue la reconnaissance du roi élu. C'est pas l'épée qui commande, c'est le support de l'épée. Donc la terre dit oui, celui-là, on le reconnaît pour notre roi. Mais il y a deux autres épreuves. Ça va toujours par trois en fonction des trois fonctions indo-européennes. C'est qu'une fois que l'épée est reconnue, a reconnu le roi, vous avez la moitié des barons de la cour qui disent non, on n'en veut pas. On ne sait pas qui il est, il n'a pas d'ancêtre, il n'a pas de nom, il n'a pas d'exploit. On n'en veut pas. L'autre moitié dit, on le reconnaît, mais quand même, on va le tester. Donc, ils viennent le voir en lui portant un coffre énorme, plein de pièces d'or, de joyaux, en lui disant, voilà, on te remet ceci, tu es notre roi, en guise de tribu. Et le jeune Arthur dit, non, moi, je ne peux pas recevoir de tribu. Moi, en tant que roi, ma fonction, c'est de distribuer la richesse, pas de la prendre. Et il redistribue, et les textes sont toujours très précis là-dessus, il redonne à chacun avec justice et justesse, ce n'est pas la même chose, ce dont il a besoin. Donc il redistribue, et là les barons qui sont en train de lui devenir fidèles, disent donc là, deuxième épreuve accomplie. Il est le défenseur guerrier, et il est le distributeur de la richesse, de la fécondité, le garant de la fécondité. Donc on a deuxième et troisième fonction accomplie. Mais il reste la première, la justice, la sacralité. Donc ils reviennent le voir en lui disant, voilà, et ton père, le roi Uther, nous avait attribué des titres et des terres. On a des barons, des grands barons, les comtes, on a des bois, on a des abbayes. Est-ce que tu nous confirmes dans nos titres et dans ces biens? Il dit, tant que je n'ai pas été sacré, je ne peux pas le faire. Je n'ai pas été intronisé par Dieu, donc ça ne me donne pas de pouvoir de ce genre. Et là, il a accompli ses trois fonctions. Donc cette épée-là ne fait peut-être, cette épée dans la pierre, ne fait peut-être partie que de ces trois épreuves. Et je trouve très cohérente pour ma part l'idée qu'il mène 2 ans de combat, il a à peu près réussi à maîtriser le royaume, à rallier autour de lui tous ceux qui ne voulaient pas de son autorité. Et c'est là que Merlin l'amène au plus profond des bois, vers un lac d'où va sortir l'épée. Et là, on comprend mieux la fin de l'histoire. Puisqu'on lui dit, voilà, l'épée, fais attention, évidemment, elle ne t'appartient pas. Elle t'est remise le temps nécessaire à ton royaume. Tu devras la rendre. Il est le seul à le savoir. Après, il y a le don du fourreau aussi, qui est plus précieux que l'épée, parce que l'épée fait gagner des batailles, mais le fourreau protège la vie du roi. Et il ne perdra sa dernière bataille, si on y réfléchit bien, que parce que Morgane aura volé le fourreau et l'aura jeté dans un lac, donc exposant son frère à recevoir des coups mortels. Et à la fin, quand il dit à son écuyer, va jeter l'épée, il est le seul à comprendre pourquoi il faut jeter l'épée. Et je pense que cette épée-là est vraiment Excalibur, mais je vous dis, dans toute l'ère indo-européenne, il y a des épées de ce genre. Et dans le texte arthurien, vous avez ainsi une série d'épées qui démarquent celle d'Excalibur. Il y en a une tout particulièrement dans la version Galahad du Comte du Graal. Quand Galahad arrive à la cour d'Arthur, Galahad est destiné, on ne sait pas encore, mais il est destiné à être le roi du Graal, donc le plus grand roi qui puisse exister. Et qu'est-ce qu'on voit arriver sur la rivière, flottant, un perron, à nouveau une pierre de marbre veinée de rouge, dans laquelle, dans ce perron, est plantée une épée, et évidemment, seul Galahad va retirer cette épée. On a encore une fois une épée de désignation de l'élu. Mais là, on a changé de registre. On n'est plus dans la royauté de ce monde. On est dans la royauté de l'autre. Et dans la quête du Graal, Perceval, vous allez avoir chaque fois que Perceval arrive à un château. Premier château, on lui remet une épée. Il ne comprend pas très bien pourquoi. Ensuite, on va lui donner une épée brisée. Ressouder cette épée va être plus ou moins heureux. Et le jour où il réussira vraiment à ressouder l'épée, il sera digne d'être roi du grain. Vous voyez, chaque fois, ces épées sont là pour désigner, pour accompagner, pour justifier le héros. Mais Excalibur, c'est la plus emblématique de toutes. C'est elle aussi qui a un nom. Et c'est elle qui continue à briller au-dessus des autres. Et c'est elle aussi dont on dit, les autres ne savent pas ce qu'elles deviennent. Excalibur, remise aux mains des fées, reviendra avec le roi.
Eh bien, merci beaucoup, Claudine. Nous allons terminer sur Excalibur. Nous allons te remercier. C'était absolument passionnant. Si vous voulez continuer pour les questions, si vous voulez voir les livres de Claudine, elle est juste en dessous. Et je vous souhaite une bonne suite de festival. Merci à vous.
Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous.